Voilà, bien bonjour encore à chacun, à chacune. Heureux d'être ici avec vous pour célébrer le Seigneur. Vous avez les salutations de mes parents, je dis au téléphone hier, mon père, mon papa, Jean-Paul Ribagnac. Donc, je vous salue bien. Et je vous invite sans attendre à ouvrir la Bible dans le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre, chapitre 22. Apocalypse 22, à partir du verset 6. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche que celui qui est injuste commettent encore des injustices, mais que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Amen. La semaine passée, alors que je me tenais devant le Seigneur, je lui ai simplement dit, Seigneur, mais quelle est ta parole pour ton peuple aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais me dire à moi déjà et à ton peuple? Et j'attendais ce que le Seigneur allait me dire, et j'ai entendu ces simples mots, dis-leur que je reviens bientôt. Et c'est donc ce que je suis venu vous dire ce matin. De la part du Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et dans la parole que nous avons lue dans le livre de l'Apocalypse, Jésus le dit à trois reprises à son serviteur Jean. Je reviens bientôt. On entend beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou encore toutes sortes de modes, de courants, de pensées, de doctrines traversent aussi les églises dans le monde entier. Et tout cela vient confirmer la description que le Seigneur a faite des temps de la fin. Mais la parole que le Seigneur donne aujourd'hui à ses serviteurs, les prophètes, c'est celle que vous venez d'entendre. Voici, je viens bientôt. Et pour beaucoup de chrétiens, cela fait juste partie de leur credo. Des choses qu'ils croient, oui, Jésus vient bientôt, mais de manière assez diffuse, sans que cela ait un impact sur leur vie de tous les jours. Jésus revient. Ah oui, bah tant mieux, mais sans plus. Et pour un grand nombre de chrétiens aussi, cette espérance, cette attente du retour du Seigneur n'habite même plus leur cœur ou leur pensée. Et certains, j'en ai entendu, comme le dit la Bible, pensent « Pasteur, ça fait bientôt 2000 ans que Jésus a promis de revenir. Ça fait 2000 ans qu'il a dit bientôt. Est-ce que cela va vraiment s'accomplir ?» Et à cela, l'apôtre Pierre a répondu. Dans sa deuxième lettre, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 8 à 15, il est dit « Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments brasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. J'aimerais encore lire avec vous un autre passage des Écritures. Cette fois-ci, c'est un fragment de la prédication de l'apôtre Pierre. C'est dans Acte 3. Il dit « Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. » C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment où de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Jésus, le Messie, ne peut pas revenir simplement à n'importe quel moment. Certaines prophéties doivent d'abord s'accomplir. Et le retour du Seigneur dépend de la réunion de certaines conditions. De la même manière que cela s'est produit pour sa première venue. Et cette parole de Pierre donne presque le sentiment que le Seigneur Jésus est, entre guillemets, donc, empêché de faire ce qu'il désire ardemment, revenir pour son épouse, revenir pour les siens, revenir pour l'Église. C'est comme s'il devait rester dans le ciel jusqu'à ce que la plateforme nécessaire à son retour soit construite. Et Pierre parle de la nécessité, premièrement, de la repentance et deuxièmement, du rafraîchissement. Et tous deux étant les éléments d'un véritable réveil spirituel. Comme nous avons besoin d'un tel réveil, d'un véritable réveil dans l'Église. Pas seulement pour nous faire du bien. On discute aujourd'hui beaucoup sur le besoin de repentance. Oui, il y a besoin de repentance. Ou du renouveau dans l'Église. Mais le but de la repentance, le but du renouveau, du réveil, n'est pas toujours bien compris. Dans ce passage, la repentance et le renouveau, la restauration, le renouvellement des choses, le rafraîchissement, sont directement liés à la venue du Seigneur. Ce n'est pas tant que nous avons tant besoin d'un réveil spirituel, mais il s'agit pour nous de nous préparer au retour du Seigneur Jésus. Le réveil, c'est pas simplement pour remplir toutes les chaises de l'Église. C'est pas simplement pour que nous sentons bien et puis qu'on puisse vivre des bons cultes. Ou que puissions simplement nous réjouir de voir d'autres personnes se tourner vers le Seigneur. Mais c'est que nous préparions nos cœurs au retour du Seigneur Jésus. Fondamentalement, nous croyons toujours voir les choses à partir de la perspective de nos propres besoins ou de nos contraintes. Et dans ce cas, nous pouvons facilement avoir la repentance au nom de la repentance, ou le renouveau au nom du renouveau, la sainteté au nom de la sainteté, la guérison au nom de la guérison, etc. Comme si tous les éléments de la foi chrétienne tournaient autour de nous et répondaient simplement à nos propres besoins. Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous mes besoins. Et ainsi nous restons centrés sur nous-mêmes et sur nos propres besoins. Mais tout ceci est en réalité là pour nous préparer à servir les desseins de Dieu. Le but est l'accomplissement des choses qui doivent être accomplies avant que le Messie puisse être, on va dire, relâché du ciel et revenir sur cette terre. Autant que nous avons besoin d'être spirituellement préparés, personnellement et collectivement, nous devons nous occuper de préparer le chemin du Seigneur glorieux, le chemin du retour de Jésus. Préparer le chemin du Seigneur. Cette voix qui a retenti avec Jean-Baptiste retentit encore aujourd'hui. Le Seigneur a dit qu'il allait envoyer l'Esprit d'Élie avant son retour, comme il l'a fait avec Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur. Nous devons commencer à changer de manière de voir les choses, non plus être centrés sur nos besoins personnels, mais sur le retour du Seigneur Jésus. Préparer son retour. Et c'est dans ce sens que l'appel à la repentance et au renouveau est lancé par l'apôtre Pierre, afin qu'il vous envoie le Messie qui vous était destiné, Jésus. Quand Pierre a prononcé ces paroles, Jésus venait de venir et venait de repartir vers le ciel. Et ces paroles sont encore d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Nous devons nous repentir, changer d'attitude, changer de manière de voir les choses, rechercher à préparer activement le retour du Seigneur. La question est de savoir comment et quand il viendra. La réponse est donnée dans les paroles suivantes de Pierre. Lui que le ciel, en parlant de Jésus, doit accueillir, retenir, c'est le mot utilisé, jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. En d'autres termes, le but de la repentance, le but du renouveau, est de faire de nous des instruments prêts pour la restauration de toutes choses. Pendant longtemps, moi j'ai perçu la repentance comme simplement le moyen qui m'était accordé par Dieu pour obtenir le pardon de mes péchés et quelque part avoir ma place dans le ciel. Et la restauration comme simplement la guérison intérieure qui devait s'opérer dans mon cœur, dans ma vie, pour que je sois vivre une vie bien plus confortable, bien plus agréable, bien plus saine, à la gloire de Dieu. Tout cela est vrai. Mais ce que Pierre dit, c'est que la repentance qui nous est donnée et la restauration sont là dans notre vie pour que nous préparions la venue du Messie. Alors, qu'est-ce que cette restauration de toutes choses? C'est quoi cette restauration dont il est question ici? Cela est clairement défini dans les écrits prophétiques. À partir des premières paroles de son discours, voyons clairement à qui Pierre s'adressait. Il dit « Homme israélite ». Puis quand il termine son message, il dit « Il a clairement affirmé que chaque détail de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et à travers lui avec le peuple juif est garanti et amené à l'accomplissement ultime à travers l'œuvre du Messie ». a plutôt tendance dans l'Église, mais en général, peut-être pas vous, j'espère pas, à écarter l'Église. Voilà, c'est comme s'il y avait une parenthèse, voilà, à écarter Israël, comme si, voilà, maintenant, Israël avait rejeté son Messie, maintenant c'est nous. Voilà. Mais Pierre dit, il parle aux Israélites, vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Donc le projet, le dessein de Dieu, en choisissant le peuple juif, sera accompli dans chacune de ses parcelles, dans chacun de ses éléments. Tout ce dont il a parlé par l'intermédiaire de ses prophètes, depuis le commencement du monde, par exemple, qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou non, il y a plus de 700 versets de la Bible qui, pleinement ou partiellement, directement ou indirectement, ont affaire à la promesse de Dieu de ramener son peuple de toutes les nations où il a été dispersé, de restaurer la terre d'Israël en la rendant aux Juifs et de reconstruire Jérusalem. Toutes ces choses vont être restaurées, établies. Et l'Écriture ainsi confirme clairement que la chronologie liée au retour du Messie dépend de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et ce fait présente un défi très réel pour nous, nous stimulant non pas à attendre, voilà, on va attendre que Jésus revienne. Voilà, on attend. Un peu comme vous êtes dans la salle d'attente, et puis le temps passe long. On a affaire actuellement, on a déménagé à l'administration française. Honnêtement, soyez bénis pour l'administration suisse. Rien à voir avec l'administration française. On attend. On attend, puis on ne peut rien faire qu'attendre. Mais quand il est question du retour de Jésus, de l'attente, c'est une attente active. La parole nous appelle à être du participant à l'accélération de la venue de Jésus. Et une des conditions requérant notre participation a quelque chose à voir avec le fait d'obéir à ce que l'on a appelé l'ordre de mission, la grande commission du Seigneur à ses disciples. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, le Seigneur affirme clairement que la prédication de l'évangile à toutes les nations doit être achevé avant qu'il ne puisse mettre un terme à cet âge au moment de son apparition physique. Donc c'est là une façon concrète et pratique de nous engager dans le fait de hâter la venue du Seigneur. Il existe aujourd'hui environ 20 000 groupes ethniques dans le monde. Environ, hein. C'est ce que le mot « nation » signifie ici, quand Jésus dit « il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, les ethnies ». Il y a encore plusieurs milliers de ces groupes qui ne possèdent pas même le témoignage du royaume de Dieu. Et l'Église devrait exceller dans ce défi. À la place de cela, il est triste de dire que de nombreuses églises modernes, on va dire, même les plus attractives, les plus attirantes, sont plus intéressées par la recherche de leur propre bien-être spirituel que de se propulser au dehors pour atteindre ces tribus et ces langues qui n'ont aucune connaissance de l'Évangile. Jésus-Christ, le Seigneur, la tête de l'Église, chef, a donné ce commandement à ses disciples et nous pouvons être absolument certain de deux faits. Jésus n'accomplira pas lui-même cette mission. Et deuxièmement, il ne reviendra pas avant que nous, son peuple, ayons accompli notre mission. Ces choses doivent bien habiter notre pensée, notre cœur. Et l'échec complet ou partiel, je ne sais pas comment, mais l'échec de l'Église dans l'achèvement de cette mission équivaut à retarder le jour de la venue du Seigneur. Peut-être que cela heurte ta théologie, et pourtant c'est la réalité. Lorsque Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours dans la communion avec ses disciples et il les a enseignés. Et la chose extraordinaire à propos de ce temps d'enseignement était que les disciples apparemment n'avaient qu'une seule chose dans leur esprit en réponse à l'enseignement du Seigneur. Ce n'était pas tant de savoir comment on allait guérir les malades. Et ils avaient appris pendant 3 ans. Ce n'est pas tellement non plus comment faire pour ressusciter des morts, ils avaient vu comment il fallait le faire. Ce n'est pas non plus comment faire pour annoncer la bonne nouvelle. Ça aussi, ils avaient pu l'apprendre au pied de leur maître. Mais la question qui habite leur cœur, leur pensée, en ayant reçu cet enseignement de Jésus pendant 40 jours, cette question, elle est exprimée dans Actes chapitre 1, verset 6, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Jésus les avait enseignés sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a mentionné comme condition préalable requise pour la restauration du royaume d'Israël? L'achèvement de la prédication de l'évangile du royaume à toutes les nations. Et ça, c'est notre mission. C'est ta mission. Avant que l'âge premier du royaume ne soit introduit sur la terre, le travail de l'Église doit être achevé. Le récit des Actes, après cette question des apôtres, continue de cette manière. Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, donc il replace les choses dans une optique différente. Vous, votre responsabilité, vous, ce qui importe pour vous, ce qui doit être votre préoccupation première, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait. Et il muait le cacha à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé vers au ciel du milieu de vous, vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Pourquoi vos yeux sont fixés sur le ciel ? Regardez la terre ! C'est là qu'il vous a envoyé. Jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout simplement que vous et moi, que nous soyons jeunes ou vieux, nouveaux convertis ou disciples de Jésus depuis de nombreuses années, instruits ou pas, riches ou pauvres, hommes ou femmes, qui que nous soyons, donc, il n'y a personne qui peut passer à travers les mailles du filet. Nous sommes appelés à participer à l'accélération de la venue de Jésus. chaque fois que nous obéissons à l'ordre du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle, de quelque manière que ce soit, même si cela nous paraît insignifiant, nous participons à la venue de Jésus. Jésus revient bientôt. Comme lui-même l'a dit à ses disciples, mettez une ceinture à votre taille. Donc préparez-vous à travailler. C'est ça en fait que ça veut dire. Hein? Mettez la ceinture à votre taille. Tenez vos lampes allumées. Donc même si les circonstances ne se prêtent pas vraiment au travail, c'est la nuit. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit. Heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Vous savez bien si le maître de la maison, connaissait l'heure à laquelle le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais, si ce serviteur se dit à lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Une manière de préparer sa venue consiste à nous préparer nous-mêmes. Il est ici question d'être éveillé, d'être actif, fidèle, obéissant au Seigneur, d'être prêt, d'accomplir la mission qui nous a été confiée. Une autre manière de préparer sa venue est de vivre ce que Pierre appelle un changement d'attitude, une repentance, une conversion pour que nos péchés soient effacés. L'apôtre Jean le dira aussi d'une autre manière. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Où en es-tu ce matin? On peut tellement facilement donner le change autour de nous, même à nos proches. Mais où en est ton cœur ce matin? Y a-t-il dans ta vie quelques mauvaises habitudes, quelques attitudes, quelques non-pardons, quelques péchés, quelque chose que tu sais parfaitement que ce n'est pas juste aux yeux de Dieu? Le Seigneur t'appelle ce matin à y renoncer, à rejeter ces choses de manière définitive dans ta vie. Vous savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, nous dit l'apôtre Jean, chapitre 3, sa toute première lettre. Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. C'est pour détruire les œuvres du diable que Jésus, le Fils de Dieu, est apparu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Mes petits-enfants, dit Jean toujours dans la première lettre, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimés, ce n'est là encore que la première étape de notre préparation du retour du Seigneur. Laissez sonder nos cœurs et nos vies. Puisqu'il est écrit, changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et l'on verra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Des temps de rafraîchissement, une effusion du Saint-Esprit, une manifestation extraordinaire de la gloire de Dieu. Ce désir-là doit habiter notre cœur. Seigneur, je veux vivre cela. Pas seulement au dimanche matin, en tout cas, oui, au moins au dimanche matin, mais tous les jours de la semaine. Est-ce que nous voulons préparer la venue du Seigneur Jésus? Ou est-ce que c'est simplement un des 12 points fondamentaux de notre doctrine? Ces derniers jours, il m'était donné d'accompagner de différentes manières plusieurs personnes dans le deuil. C'était la semaine, il y a eu que ça. Et vendredi, nous étions à l'enterrement d'un jeune de 19 ans qui s'est tué dans un accident de voiture. Mardi, ce sera celui d'un homme de environ 70 ans qui a donné son cœur au Seigneur peu avant. Réunir son cœur au Seigneur peu avant le grand départ. Nul de nous ne sait ni le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Mais encore moins le jour et l'heure où la mort frappera à notre porte. L'apôtre Paul, lui, en parlant de sa mort qu'il sentait proche, a dit ceci, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juste juge nous la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais écoute bien, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Se préparer à la venue de Jésus. Vivre, passer par cette profonde repentance, ce changement d'optique de notre vie chrétienne, où notre cœur doit avoir pour seul désir le retour de la venue de Jésus, de rechercher ardemment ce temps de rafraîchissement où Dieu répand son esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Tout cela peut être résumé en cette seule parole. Attendre avec amour la venue de Jésus. Ceux qui ont été amoureux un jour, celles qui ont été amoureuses un jour, rappelez-vous, quand vous attendiez votre fiancé, hein, comment vous aviez rendez-vous, vous attendiez, hein, quelle attente! C'est impressionnant! Quand j'attendais ma femme, ma fiancée, on allait bientôt se marier, j'ai jamais aussi bien rangé ma chambre que ce jour-là. C'était nickel! Et puis vous vous préparez vous-même aussi, vous êtes le plus beau, la plus belle. Parce que vous voulez lui plaire, vous attendiez avec amour. Est-ce que nous voulons attendre avec amour la venue de Jésus? Est-ce que cela habite notre cœur? Ceux qui auront attendu avec amour la venue de Jésus. Quelle expression merveilleuse! J'aimerais que ce soit vraiment l'expression qui marque ma vie. Oui, il a attendu avec amour la venue de Jésus. Oui, Jésus, je veux être de ceux qui t'attendent avec amour. Et qui font tout pour que tu puisses revenir le plus vite possible annonçons la bonne nouvelle, partageons l'amour de Dieu, parlons de lui. Que les gens écoutent ou n'écoutent pas, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et qu'il y ait le plus grand nombre qui puisse le croire, la recevoir, ça c'est quel bonheur. Mais notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Ceux qui croiront et qui seront sauvés, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mais notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et aussi atteindre sa venue avec amour en laissant son esprit de sainteté purifier mon cœur de tout ce qui peut le souiller, en étant son témoin dans la puissance de son esprit. Alléluia. J'invite à la prière, mes frères et sœurs. Nous pouvons avoir toutes sortes de choses dans la pensée, nous pouvons penser à d'autres, à des projets que nous avons, à des activités que nous avons, nous pouvons penser à toutes sortes de... Voilà, toutes sortes de choses, des bonnes comme des moins bonnes, des fardeaux, des préoccupations. Mais que la pensée du retour de Jésus habite vraiment nos cœurs et soit plus forte que tout. Et cela implique un changement d'attitude. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi, et tu connais mes bien-aimés, tu connais ton Église réunie ici, et tu en es le chef, tu en es le Seigneur. C'est toi, c'est à toi que nos vies appartiennent, Jésus. Et toi, j'ai annoncé cette parole que tu as mise sur mon cœur, et je te prie que cette parole puisse être confirmée par ton Saint-Esprit, qu'elle puisse prendre racine dans nos vies, qu'elle puisse porter son fruit dans chacune de nos vies. Je te prie, Seigneur, que tu accordes à ton peuple cette repentance et ce temps de rafraîchissement. Seigneur, que nous puissions préparer ta venue. Merci, Jésus, avec amour, que notre cœur soit passionné de toi, éperdument amoureux de toi. Seigneur, je te demande cette grâce. Ravive, Seigneur, cet amour dans nos cœurs. Que cette flamme puisse brûler jour après jour, heure après heure. Seigneur Jésus, viens braser nos cœurs. Seigneur, que notre cœur soit une flamme ardente pour toi. Seigneur, tu dis que dans ta parole que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, fais de nous des flammes de feu, Seigneur, que notre vie tout entière soit consumée par toi, par le zèle de ta maison. Seigneur Jésus, merci. Alors que nous tenons devant le Seigneur, j'aimerais que tu puisses simplement prendre position devant le Seigneur. Dis, Seigneur, voilà, je reconnais que ma vie, j'ai perdu de vue le but réel pour lequel non seulement tu m'as laissé sur la terre, mais ce à quoi pour lequel tu m'as donné des dons, des talents, ce pourquoi tu m'as appelé, cette mission de préparer ton retour. Seigneur, me voici, je me consacre tout à nouveau à toi. Dis-le, Seigneur. Dis-le, Jésus, me voici. Prends-moi. Accorde-moi la repentance dont j'ai besoin. Accorde-moi ces temps de rafraîchissement pour que je puisse partager aussi aux autres la grâce de ton salut. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Kula mabaramana. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous donne un devoir à faire? Ça sera tout simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. Dans cette semaine qui vient, la première parole que vous allez dire à votre levée sera « Jésus
tu reviens bientôt. Ah, c'est pas trop compliqué? Ça va? C'est imbornable. Hein. Et puis que cela puisse s'imprimer dans votre cœur, dans votre pensée. Et cela peut aussi, va aussi teinter votre journée. Vous allez voir aussi qu'en pensant au retour du Seigneur dans votre prière, pour les différents besoins, pour les différentes situations que vous rencontrez, qu'en ayant cette pensée, Seigneur, tu reviens bientôt. C'est comme ça que Jésus a enseigné ses disciples. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et après, on pense à nos besoins, on pense à tout le reste. Mais ça doit imprimer, donc là, nous donner la bonne direction. Voilà, tous les matins. Si vous avez peur d'oublier, vous écrivez ça sur un papier, sur votre natel qui est sur votre, à côté de votre lit, sur votre radio réveil, ou je sais pas, sur Jésus revient bientôt. Hein? Et puis, simplement cette phrase, et puis y penser pendant la journée. Que le Seigneur vous bénisse, garde. Merci.